Pour la méditation de ce matin, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 1 à 14. Luc 14, versets 1 à 14, au nom de Jésus. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme qu'une maladie faisait enfler se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda au maître de la loi et aux pharisiens. Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Mais ils ne voulurent pas répondre. Jésus prit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de lui répondre à ce sujet. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il dit alors à tous cette parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'un personnage plus important que toi ait été invité. Et celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viennent et te disent « Laisse-lui cette place ». Tu devrais alors, tout honteux, aller t'asseoir à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, viens plus haut à une meilleure place. Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés de la mort à la vie. » Amen. Quel genre d'invitation pourrait-on qualifier ce que les pharisiens et les légistes ont donné à Jésus? Normalement, si nous invitons quelqu'un, comme Jésus le dit ici, quand on invite quelqu'un à manger chez soi, c'est parce que nous apprécions cette personne. Nous apprécions d'être en compagnie de la personne invitée, normalement, je dis bien normalement. Ou, du moins, nous invitons quelqu'un qui a une place honorifique dans la société, d'où on aimerait avoir un contact avec cette personne connue, respectée de tout le monde. Or, ce qu'on a ici dans ce texte, les pharisiens et les spécialistes de la loi ou les légistes ont invité Jésus pour une raison bien précise. C'est pour le piéger. Et le but, c'est de le condamner. Un repas pour condamner. Vous imaginez quel drôle de repas. Et c'était trop flagrant car si nous regardons bien le texte, comment ça se fait que parmi les invités ce jour-là, si vous avez bien suivi la lecture, il y avait un malade, et ce n'est pas n'importe lequel, c'est un malade hydropique qui était placé juste devant Jésus. Donc même la place qui a été prévue pour le malade était bien choisie. On va le mettre devant lui. Vous voyez déjà le piège qui se construit. Et en connaissant Jésus, il savait bien de quoi il est capable. Il savait pertinemment que ce Jésus-là ne pourrait jamais être passif face à un malade, face à une situation pareille. Donc le piège était bien monté. Et pour deux raisons. La première, c'est que c'était un jour de sabbat. Deuxièmement, ils n'ont pas pris au hasard un malade quelconque, mais ils ont choisi un hydropique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maladie, qui fait partie d'une longue liste, de la longue liste des maladies considérées et interprétées par les Juifs comme une signe de malédiction. Parce qu'il y a toute une liste de maladies qui fait partie de ce qu'on appelle les gens maudits par Dieu. Et donc, ce genre de maladie fait partie de la liste des Juifs. Donc, vous voyez, c'est bien calculé. Et ces gens-là, ce sont des personnes considérées comme impures à cause de leur maladie. Mais bizarrement, comment ça se fait qu'il est présent là, au milieu de ces personnes classées comme VIP religieuses? Normalement, il ne devait pas manger avec eux, puisqu'il est impur. Vous voyez? Et donc, l'impureté peut être contagieuse spirituellement dans leur croyance à eux, vis-à-vis aussi des pharisiens. Donc, ce n'est pas logique ce qu'eux-mêmes, ils ont fait ici. Ils se sont même fait pris par leur propre piège. Et sans hésiter, on peut dire que ce repas avait pour but d'un côté piéger Jésus, bien sûr, et, ce qui est encore plus grave, de l'autre côté, c'est pour humilier publiquement ce malade. Et la réponse de Jésus donnée à ses détracteurs était vraiment exceptionnelle, parce qu'à aucun moment, il a donné des explications pour se défendre, lui. Si vous lisez bien, il n'a jamais fait pour se défendre, ou se justifier, ou protéger sa vie. Mais ce qui est fait, il a fait, pour lui, ce qui est le plus important, c'est la vie de ce pauvre malade. En premier temps, il leur pose une question pertinente. Faut-il laisser le malade dans l'état où il est? Je vous pose la question, faut-il laisser comme ça? Parce que ce genre de maladie, c'est une maladie très très grave qui peut procurer une mort subite car elle peut attaquer le cœur à n'importe quel moment. Donc, il y avait une vie en jeu. Mais malheureusement, la vie de cet homme ne semblait pas être plus importante que la vie d'un bœuf ou un des fils des pharisiens. Vous voyez un peu la tristesse derrière tout ça. En deuxième temps, Jésus pousse encore plus loin le bouchon, en pointant du doigt la gravité de l'acte commis par les pharisiens. Jésus parle d'invitation, en faisant une allusion sur la nature de l'invitation qui a été faite à lui et de ce pauvre malade. C'est comme s'il leur disait, pour quelle raison en fait que vous nous avez invités aujourd'hui? Pour nous humilier? Humilier ce pauvre malade? Et pour me piéger? Donc Jésus faisait comprendre de façon indirecte que l'invitation au repas faite par les pharisiens n'était pas du tout une vraie invitation. Et en même temps, il montre du doigt l'injustice qui se passait dans les milieux publics, dans les synagogues, lorsque les gens y venaient pour prier. Il faut savoir, au temps de Jésus, lorsqu'on entrait dans une synagogue, les scribes étaient placés sur une estrade surélevée. Et les premières places étaient payantes dans les synagogues à l'époque de Jésus. Les premières places étaient payantes et enviées par tout le monde. Donc c'était les docteurs de la loi, les pharisiens et les personnages importants de la communauté qui y étaient. Et la place des pauvres et les païens était presque à l'extérieur, à l'entrée, près des parvis. Et donc, ce qui est encore plus ignoble dans cette invitation des pharisiens, c'est qu'ils ont invité ce pauvre malade, pas par charité ou par compassion, non, au contraire, Ils l'ont instrumentalisé pour arriver à leur fin machiavélique. Chers frères et sœurs en Christ, pour les contemporains de Jésus, la religion finalement était devenue un poids, un fardeau en plus à apporter en dehors des problèmes quotidiens. Le message que Jésus véhicule à travers cette guérison, c'est que le sabbat, qui semblait être une loi pesante pour les pharisiens, pour Jésus, c'est un jour de joie. C'est un jour de libération. C'est un jour de guérison, mais pas une loi contraignante. La conception de Jésus sur le sabbat, dans ce texte par exemple, était totalement différente par rapport à ceux des pharisiens. Et je me pose à moi aussi la question, et je pose la question à chacun d'entre nous. Prier pour nous, c'est quoi finalement? Lire la Bible, ça signifie quoi? Prier quotidiennement, avant le repas, ou avant de dormir, ou quand on se lève, venir au culte, ou aller dans des réunions de prière dans n'importe quel lieu, ça signifie quoi pour nous? Est-ce que c'est juste une obligation? Est-ce qu'on doit le faire parce que c'est la loi? Et l'enjeu est là pour nous, dans notre façon de transmettre notre foi autour de nous, à notre famille, à nos amis, à nos voisins. N'utilisez jamais la formule suivante: il faut que tu pries. Parfois, on dit comme ça. Mon frère, il faut que tu pries si tu veux être sauvé. Il faut que tu fasses ceci, ou il faut que tu fasses cela. Ce genre de formule n'est pas un message d'espoir, c'est plutôt encore des contraintes. Est-ce que nous prêchons un Dieu qui libère ou un Dieu qui nous guette au coin de la rue pour nous coincer? Est-ce que c'est ce Dieu-là qui est proclamé par les évangiles? Non, je ne crois pas. C'est un Dieu qui a plein de compassion, qui ne peut pas rester comme ça devant un malade. Il agit sans calculer le retour. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde où on vit, c'est l'occasion, je crois, pour nous les chrétiens, de se démarquer face à toutes ces terreurs. Et récemment, vous avez entendu à la télé les débats sur le principe de la laïcité en Europe, autour de l'utilisation des burkinis qu'on vient d'entendre, des utilisations des signes ostentatoires religieuses, au milieu de toutes ces cacophonies religieuses et politiques, quelle voix apporterons-nous à la société? Quel genre de Dieu prêchons-nous? 500 ans plus tard, après la réforme, la voix des réformateurs fait encore de l'effet dans notre société actuelle. La théologie de la grâce n'est pas démodée. Au contraire, elle a encore sa place, la grâce. Certaines personnes, comme les pharisiens, font porter un joug aux personnes qui ont soif de la vérité. Et malheureusement, la plupart tombent sur des personnes qui profitent de la pauvreté des gens, qui profitent de leur souffrance. Ils s'enrichissent même sur le dos de ces pauvres personnes. J'ai partagé avec le consistoire pendant le week-end de retraite. Il y a un nouveau courant dangereux qui circule maintenant aux États-Unis et ça commence à venir ici en Europe, le mouvement de Bethel Church. Là où on essaie de mobiliser les gens à chercher des pouvoirs par tous les moyens au niveau d'un seul personnage, l'apôtre de la communauté. Et on cherche à aspirer les pouvoirs des personnes influentes en Christ à l'époque qui sont déjà décédées, et ils vont dans des cimetières pour dormir sur le tombeau de ces gens-là, espérant avoir le pouvoir de leur chef religieux. Et ça marche. Parce que les gens veulent avoir du pouvoir. Ils veulent sortir très vite de leurs problèmes quotidiens. Et donc, ce genre de message attire les gens. Pendant mes vacances en Suisse, j'ai pu voir ça à Lausanne. incroyable, là où il y a le fief du protestantisme calviniste. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc soyons les messagers de la grâce et de rappeler aux gens cette belle phrase de Jésus qui n'a jamais changé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Voyez-vous, Jésus a annoncé ces mots parce qu'il dit lui-même que les maîtres de la loi attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. C'est pas ça le christianisme. C'est pas ça l'évangile. C'est pas un fardeau en plus. Il n'y a pas de condition que Dieu donne si tu veux être sauvé. Tu dois faire ceci et cela. C'est pas ça. Le Christ te sauve d'abord. Il te prend dans les bras avec toutes tes maladies. Et l'image est très bonne quand tu vois, vous lisez le texte ici. Qu'est-ce qu'il dit, Luc? Il le décrit bien. Jésus le prit d'abord, le guérit. Donc il le prit dans ses bras. Avec toute cette maladie, cette impureté. Et ils étaient en train de manger. Donc, sur le plan hygiène, vous pouvez réfléchir ce qui s'est passé. Mais c'est ça l'amour du Christ. Et c'est exactement cela que Jésus reproche aux pharisiens dans ce texte. Vous refusez que je sauve ce pauvre malade un jour de sabbat. Mais vous ne trouvez pas de problème à sauver vos fils et vos bétails tombés dans un puits un jour de sabbat. Mais c'est un deux poids deux mesures. Donc, chers amis, soyons les mains de Jésus qui veut sauver et relever ceux qui sont accablés. Ne nous précipitons pas à tout de suite à leur imposer des contraintes. Mais au fur et à mesure qu'ils avanceront dans la foi, ils sauront par la lumière de l'Évangile le chemin à suivre. Ce n'est pas à nous de leur dire « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Ce n'est pas notre tâche. Notre tâche, c'est de les amener en Christ. Et c'est le Christ qui va les éduquer, tout doucement. Il a la patience éternelle pour ça. Pourquoi brusquons-nous les choses? À nous de réfléchir là-dessus. Amen.